C'est arrivé. On a un signe qui ne trompe pas, les snowbirds migrent. Où est-ce que j'ai vu Roland? Est-ce qu'il est mon frère? Salut Roland. Les snowbirds reviennent du sud, le printemps est arrivé. Bienvenue dans la famille. Vous savez que Dieu a mis sa main sur un frère qui nous est cher cette semaine, d'une manière vraiment extraordinaire. C'est Patrick Lafortune. Vous avez reçu le courriel? Quelqu'un m'a demandé de donner des nouvelles. C'est vraiment une grâce de Dieu. Il a fait une... Patrick est pompier. C'est son métier. Et puis, pendant qu'il est en train de travailler, il a fait une chute de 30 pieds. Il est en train de monter les boyaux. Alors, il y avait 65 livres sur les épaules. Il est en train de monter ça. Il a fait une chute de 65 pieds. Il est tombé sur ses... 30 pieds, je m'excuse. Il est tombé sur ses pieds. Donc, c'est les jambes qui ont encaissé le choc. Il y a une fracture au fémur, tibia, péroné. Et puis... Dans la cheville? Dans le pied? Puis deux foulures. OK. OK. Printemps n'est pas tout à fait arrivé. Alors, une fracture dans le pied, deux foulures, dans une chaise roulante, mais Dieu avait sa main sur lui. S'il était tombé sur le dos, ça aurait été une autre histoire, j'imagine. Alors, le Seigneur l'a gardé, il y avait un ange, je ne sais pas. Dieu le sait, mais Dieu l'a gardé. Je veux encourager l'Assemblée à bénir Dieu, premièrement. Il faut rendre grâce à Dieu lorsqu'il protège ses enfants. Comme ça, il a simplement échappé un barreau, si j'ai bien compris, en montant dans l'échelle. Et puis, il s'est retrouvé en bas. Et puis, priez pour la famille. Si Dieu dispose votre cœur à donner un coup de main au niveau de la popote, j'imagine que c'est moins évident d'être debout devant un fourneau avec les deux jambes comme ça. Mais si Dieu dispose votre cœur à donner un coup de main au niveau de la popote, faites-le. Vous pouvez aller voir peut-être le petit groupe qui vont donner un coup de pouce avec Serge Hamel. Et puis, priez. Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il nous arrête et il nous met à la maison pour 2 mois. Il sait ce qu'il fait. Et Dieu a un plan pour cette famille-là, à ce moment-ci, en mettant papa à la maison pour 2 mois. Priez que Dieu vienne se glorifier à travers tout cela. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu au chapitre 9. Matthieu 9. Seigneur Jésus, ce matin, je m'en viens parler de toi, Seigneur. Qui suis-je, ô Dieu, pour révéler la personne de Jésus-Christ? Tu es si grand, si bon, si merveilleux, Seigneur. Ce passage nous dévoile ta beauté, ta douceur, ta compréhension, ta puissance, ta grandeur infinie, Seigneur. Ô Dieu, j'ai besoin de l'assistance de ton Esprit Saint, afin que nos cœurs soient touchés par ta parole ce matin, Seigneur. Que nous ne sortions pas de cette salle indifférents à ta parole, Seigneur. Que toutes ces choses ne soient pas qu'une belle histoire pour nous. Mais que par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, ces principes viennent s'appliquer dans nos cœurs. Touche-nous, frappe-nous, arrête-nous, Seigneur. Montre-nous le fond des choses, la vérité derrière. Une vie superficielle, Seigneur. Et saisis nos âmes ce matin. Tu es si beau, Seigneur Jésus. Et je suis si petit pour révéler la beauté de ta personne. Viens, Seigneur, et parle-nous. Je t'en prie avec foi, Seigneur Jésus. Viens, entends ma prière. Touche nos cœurs. Révèle-toi à nous ce matin. C'est en Jésus-Christ que je le demande. Amen. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été envoyé parmi les hommes? Pourquoi est-ce que Jésus a été envoyé sur la terre? Est-ce que les hommes cherchaient Dieu de tout leur cœur? Est-ce que Jésus a été envoyé sur la terre? Parce que Dieu a posé son regard sur la terre. Il a entendu des cris qui venaient à lui de la terre, d'hommes et de femmes qui souffraient de leurs péchés, qui criaient à Dieu et qui disaient « Dieu, viens nous sauver! Nous avons besoin de toi! » Quand vous vous promenez dans la rue, quand vous jasez avec des amis, quand vous parlez avec vos proches, est-ce que c'est ça que vous voyez? Est-ce que vous voyez des créatures de Dieu qui ont ce sentiment profond, aigu, comme un cri, un appel à l'aide adressé à Dieu pour dire « Seigneur, viens à notre secours, on a besoin de toi. » C'est ça que vous voyez? Il y a des jeunes gens ici ce matin. À mon avis, il y en a plusieurs. Vous venez ici semaine après semaine par respect pour vos parents. Seulement. Pas par amour pour Christ, pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, par respect pour vos parents. Il y a probablement des moins jeunes aussi qui vivent ça. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Lorsque vous êtes venu ici ce matin, est-ce que vous vous êtes levé ce matin et puis vous avez dit « Ah, j'ai besoin d'aller à l'église. J'ai besoin, j'ai soif de Dieu. J'ai besoin de rencontrer Dieu. » C'est ça que vous viviez ce matin? Tous ceux d'entre vous qui venez ici simplement par respect pour vos parents. Non? Ce n'est pas avec un cœur disposé comme ça. L'être humain ne suppliait pas Dieu de venir à son secours lorsque Jésus est venu, pas plus à l'époque qu'aujourd'hui. Voici ce que Dieu déclare dans sa parole sur l'état du cœur humain avant que Christ entre dans ce cœur. Je vous lis quelques passages. État d'un cœur sans Jésus-Christ. Probablement état du cœur de quelques-uns ici ce matin. Dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 6, nous lisons « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, sans direction, sans Dieu, sans berger. » Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 9 à 18, écoutez bien ceci. Paul dit « Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ça parle de beaucoup de relations, ça, beaucoup de relations humaines. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Écoutez bien la fin. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Est-ce que les hommes cherchaient Dieu lors de la venue de Jésus-Christ? Est-ce que les hommes réalisaient qu'ils avaient besoin de Dieu? Aucunement. Ils suivaient leur propre voie, leur propre égarement, sans chercher Dieu. L'homme naturel, le cœur qui n'a pas été pénétré par Jésus-Christ, ne cherche pas Dieu. Alors, je vous repose ma question. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu si ce n'est pas pour répondre à un cri des hommes? Parce que les hommes ne crient pas à l'aide de Dieu. Quand on commence à le faire quelque temps avant notre conversion, et plusieurs d'entre nous l'ont vécu, c'est parce que déjà l'Esprit-Saint est en train de faire une œuvre, Dieu est en train de nous appeler, de nous attirer à son Fils. C'est uniquement pour ça. Jésus-Christ est venu vers des êtres qui ne cherchaient pas Dieu, qui n'étaient pas intéressés par Dieu. C'est ça la vérité. Jésus-Christ est venu vers des êtres qui ne cherchaient pas Dieu, qui n'étaient pas intéressés par Dieu. Il est venu pour créer un peuple nouveau, radicalement transformé pour la gloire de Dieu. Jésus est venu pour sauver et transformer radicalement les pécheurs que nous sommes, malgré le fait que nous ne cherchions pas Dieu et que nous étions indifférents aux choses de Dieu. Ce matin, on est dans Matthieu 9. On vient de terminer le chapitre 8, évidemment. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Jésus a vu deux démoniaques. Il est allé vers eux. Il les a libérés de légions de démons qui les occupaient. Il vient de les libérer, il vient de les sauver de cette emprise démoniaque qu'il y avait sur eux. Réaction des villageois, des proches qui connaissaient probablement ces deux hommes. Ils demandent à Jésus de s'en aller. Ils chassent Jésus, littéralement, parce que l'économie locale est affectée. Hein? Ils ont peur, ils chassent Jésus. Alors Jésus reprend la barque, il traverse, c'est le verset 1, chapitre 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville et le ministère recommence. Et là, il y a un groupe d'hommes qui vient vers lui. Ils apportent un homme avec eux qui est couché dans un lit, paralysé. On n'a aucune information pour savoir ça fait combien de temps qu'il est paralysé. Et si on va voir les autres évangiles, si on va voir l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, on a un petit peu plus d'informations. Ils nous donnent un peu plus de détails. Ils nous disent qu'ils sont... C'est ce groupe d'hommes qui amène probablement un ami. Ils sont tellement déterminés à venir le présenter à Jésus qu'ils vont passer par le toit de la maison. D'accord? Jésus est en train d'enseigner dans une maison. La foule se presse autour de la maison. La maison est pleine à craquer. Pas moyen d'accéder à Jésus pour qu'il vienne faire un miracle, pour qu'ils viennent libérer cet homme. Alors, ils sont déterminés, remplis de foi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par le toit de la maison. Matthieu ne nous donne pas ces détails-là, les deux autres évangiles nous les donnent. Ces gens-là veulent absolument amener leur ami à Jésus. Ils veulent l'amener à lui. L'homme est paralysé, c'est pas rien. Et il croit que Jésus peut le guérir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien, ses amis et lui font des pieds et des mains pour accéder jusqu'à Jésus. Matthieu 9, versets 1 et 2. Verset 2. « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Un petit peu étrange, hein? Comme réponse de la part de Jésus, on y revient. Je veux souligner quelque chose avant ça. C'est remarquable de voir combien Jésus est touché par la foi. Lisez avec moi ce qui est écrit. On lui amena un paralytique, Jésus voyant leur foi. À plusieurs reprises dans les évangiles, il nous est mentionné combien Dieu est sensible à la foi. Est-ce que vous voulez toucher le cœur de Dieu, attirer l'attention de Dieu? Est-ce que vous voulez toucher une corde sensible chez la personne de Dieu? Croyez en lui. Vous voulez attirer son attention? Quand vous priez, croyez en lui. Dieu est extrêmement sensible à la foi. Ça touche une corde sensible en lui. Et c'est fascinant de le voir ici. Maintenant, ce qui est beau dans ce passage-là, c'est que Jésus est touché par la foi des amis qui transportent le paralytique. Évidemment, certainement du paralytique, mais il ne peut pas venir seul, le pauvre homme. Alors, il est touché par la foi des amis qui le transportent. C'est la foi de l'intercession qu'on a ici. Ce qui touche Jésus, c'est la foi des intercesseurs. Est-ce que vous le voyez dans le texte? Il est paralysé, il ne pouvait pas venir de lui-même. Jésus voit ses amis qui l'aiment tellement, qui le prennent tellement à cœur, qui vont sacrifier de leur temps, ils vont mettre du temps de côté, ils vont faire des pieds et des mains, ils vont grimper sur le toit pour faire quelque chose d'étrange, commencer à défaire ce toit pour descendre Jésus. C'est la foi de l'intercession qu'on a ici. Il y a des sœurs qui prient ici chaque dimanche matin. Entendez ce que Dieu est en train de vous dire. Entendez la parole de Christ ici. Dieu est touché par la foi de l'intercession. Il y a des gens qui viennent tous les mercredis matins, qui se lèvent à 5h30 pour venir à la prière ici, à 6h30. Jésus-Christ est touché par cette foi. Certains d'entre vous, Vous priez depuis des années. Des années pour votre époux. Pour votre épouse qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Entendez ce que Jésus-Christ est en train de vous dire. Recevez l'encouragement. Jésus-Christ est sensible à la foi des intercesseurs. Vous priez pour vos enfants qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Depuis des années, persévérez. Jésus-Christ est sensible à la foi des intercesseurs. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui, spirituellement, sont exactement comme cet homme paralysé. Il y a des gens autour de nous qui sont paralysés spirituellement. Ils ne viendront jamais d'eux-mêmes à Dieu. Ils ne peuvent pas venir à Dieu d'eux-mêmes. Ils ne croient même pas en lui. Ils n'ont pas cette foi. Ils sont paralysés spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans la prière. On s'en va dans la prière et on s'adresse directement à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te prie pour Jean-Pierre, mon père, pour René, mon beau-père. Parce qu'eux autres ne te prieront pas pour leur salut. Ils ne le feront pas. Ils sont paralysés spirituellement, ils ne pourront pas faire ça. Seigneur Jésus, tu me dis dans ta parole, dans Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors moi, Seigneur, je vais te les apporter dans la prière. Moi, je vais le faire, Seigneur. Je les transporte et je les amène au pied de la croix. Est-ce que vous voulez être ces intercesseurs qui vont amener ces gens paralysés spirituellement, avec confiance, avec foi? Le voyage va être long. Ces amis-là ont dû traverser la foule, monter sur le toit de la maison, défaire le toit de la maison pour réussir à venir présenter leur ami à Jésus-Christ. Le voyage peut être extrêmement long. Est-ce que vous entendez ce que Jésus-Christ vous dit ce matin? Si ça fait des années que vous priez pour vos enfants, que vous priez pour votre conjoint, que vous amenez des gens, vous priez pour cette ville, pour cette province qui a le cœur endurci, l'intelligence obscurcie, ça va prendre des intercesseurs. Et Jésus-Christ est sensible à la foi des gens qui interviennent en faveur de ceux qui ne peuvent le faire. Est-ce que cette Église va être ses amis? Pour vos enfants, pour votre conjoint qui n'est pas au Seigneur, pour cette ville, pour cette province, pour des collègues de travail. Jésus-Christ est touché par cette foi. Merci Seigneur pour cet encouragement. Alors, ces amis merveilleux amènent cet homme auprès de Jésus. Ils veulent, et surtout dans ce cas-là, il veut, parce que lui a conscience de son état, il veut être guéri de sa paralysie, il veut marcher. Je veux dire, c'est légitime comme requête. C'est une bonne requête. Seigneur, guéris-moi, je suis malade. C'est une requête qui fait tellement de sens. Il veut marcher, il veut vivre une vie heureuse. Sa demande est légitime. Et non seulement il demande quelque chose de raisonnable, mais en plus, il a la foi que Jésus va le faire. Il a cette foi-là. Alors, Jésus n'a même pas à lui reprocher, tu n'as pas la foi. Non, il croit en Jésus. Il croit que Jésus est puissant pour le faire. Qu'est-ce que Jésus peut vouloir de plus? Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir de plus que quelqu'un qui s'adresse à lui, à n'importe qui d'autre, pas à n'importe qui d'autre, qui s'adresse à lui avec foi? Bien, Jésus veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Jésus veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors, qu'est-ce que Jésus a comme réponse pour lui? Il lui dit, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il vient pour être guéri. Il veut être guéri, il veut marcher. Il veut être guéri physiquement. Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Je ne sais pas si cet homme-là était déçu sur le moment. Ce n'est pas exactement ça que je demandais, Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait lui-même conscience de certaines choses dans sa vie. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Voyez-vous, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour transformer radicalement les pécheurs que nous sommes. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu sur cette terre pour venir transformer en profondeur. On sait parce que la Bible enseigne que dans certains cas, des gens vont être malades parce que Dieu est en train de les châtier. C'est biblique. On sait que dans bien des cas, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement une épreuve que Dieu permet dans la vie pour nous faire grandir, pour nous amener ailleurs. C'était quoi dans ce cas-là? On ne peut pas vraiment l'affirmer. On ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme-là. Ce que je vois clairement, c'est que cet homme avait sa requête, une bonne requête, une requête légitime, une bonne prière adressée à Dieu. Demander la guérison, c'est légitime. C'est une très bonne requête. Mais Jésus ne se satisfait pas seulement de cette requête. Jésus va beaucoup plus loin que la requête que lui a. Jésus va beaucoup plus loin que ça. Il ne veut pas simplement donner une bonne santé physique à cet individu. Jésus veut faire un travail en profondeur et il veut lui donner la santé spirituelle. C'est ça qu'il veut faire. Celle qui dure éternellement. Voyez-vous, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre premièrement pour nous guérir physiquement. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver des pécheurs et nous transformer radicalement à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Et on doit réaliser que Christ a comme agenda une chose, nous en avons une autre. Christ a comme agenda de nous transformer en profondeur. C'est pour ça qu'il vient ici. Jésus est venu pour sauver et transformer radicalement les pécheurs que nous sommes. Et il ne va pas se satisfaire d'un travail de surface. Il ne va pas se satisfaire de ça. Pensez aux requêtes que vous adressez de ce temps-ci à Dieu. Pensez à toutes les requêtes que vous adressez. Cette semaine, vous avez prié Dieu cette semaine, la majorité d'entre vous, à un certain moment donné, soit par détresse, soit par discipline, soit par conviction, soit par foi, mais vous avez dit quelque chose à Dieu. Quelle requête avez-vous adressée? Vous aviez votre agenda. La majorité d'entre elles, des requêtes extrêmement légitimes. Seigneur, j'ai perdu mon emploi, donne-moi un travail, Seigneur. C'est à lui que tu veux demander ça, pas à quelqu'un d'autre. C'est la bonne personne. Cet homme qui était paralysé s'adressait à la bonne personne lorsqu'il adressait cette requête. Seigneur, redonne-moi ma santé, ô Dieu. Seigneur, aide-moi à aimer mon épouse, Seigneur. Aide-moi à être patient dans cette relation. Aide-moi à persévérer dans la foi, Seigneur. Nous avons notre agenda. Jésus-Christ veut nous transformer en profondeur. Il a son agenda. Et il n'en restera pas à des requêtes superficielles. Alors, lorsque je perds mon emploi et que je viens à Dieu et que je dis, « Seigneur, donne-moi un travail. » Jésus-Christ est probablement en train de dire, « Je vais le faire, mais je veux faire plus que te donner un travail. » Je suis au contrôle. Tu as perdu ton emploi? Je suis au contrôle. Ne suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas celui qui arrête les vents et la mer? Ne suis-je pas celui qui guérit les malades? Ne suis-je pas celui qui ressuscite les morts? Je vais t'en donner un emploi, mais je vais faire plus que ça aussi, parce que mon engagement envers toi, c'est de faire de toi un homme et une femme de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Seigneur, redonne-moi ma santé. Oh, peut-être. Et s'il le fait, il va faire beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que ça. Son engagement et son agenda est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça la réponse qu'il est en train de donner à cet homme. Bien, je vais t'accorder ta requête. Tu l'adresses avec foi. Tu crois en moi. Tu crois que je peux te guérir. Je vais te guérir. Mais ça, c'est temporel, mon ami. C'est pour quelques années. Laisse-moi faire plus que ça. Laisse-moi effacer tes péchés. Laisse-moi te donner plus que la santé physique. Laisse-moi te donner la santé spirituelle, celle qui va durer éternellement. Et ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, et c'est vraiment ça le message du passage ici, Ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ n'est pas seulement un autre faiseur de miracles. Jésus-Christ n'a pas seulement le pouvoir de guérir des malades, de chasser des démons, même d'avoir le contrôle sur les éléments de la nature. Jésus-Christ ne peut pas seulement vous redonner un travail, vous donner de la pluie quand vous en avez besoin, apporter le soleil lorsque vous en avez besoin, apaiser les tempêtes lorsque vous en avez besoin. Jésus-Christ peut faire beaucoup plus que cela parce qu'il a un pouvoir plus grand encore. Bien d'autres avant lui avaient fait des miracles semblables. Il y en avait eu d'autres faiseurs de miracles envoyés par Dieu. Il y a des prophètes dans l'Ancien Testament qui avaient fait des miracles. Mais Jésus-Christ a une autorité et un pouvoir supérieur encore. Celle qui est nécessaire pour opérer un changement profond en vous. Jésus-Christ a l'autorité de pardonner vos péchés. Jésus-Christ a cette autorité de faire un travail qui ne reste pas en surface, mais d'entrer dans les domaines secrets de nos vies, dans les endroits cachés de nos vies, de venir à l'intérieur de nous et de nous accorder son pardon. Quand les scribes l'ont entendu dire cette parole, ils ont été scandalisés. Quand les docteurs de la loi l'ont entendu parler, regardez le verset 3, « Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème! » Ces hommes-là avaient très, très bien compris ce que Jésus est en train de dire. Ils avaient saisi ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de s'approprier une prérogative, un droit divin. C'est ça qu'il est en train de faire. Dans Ésaïe 43, verset 25, on lit, vous pouvez juste le prendre en note. C'est Dieu qui parle à travers son prophète Ésaïe et il dit, « C'est moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu seul a le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés de manière ultime et absolue. Si j'offense mon épouse Esther et que je vais vers elle, Esther peut me dire, Yannick, je te pardonne. Si j'offense un homme, j'offense un être humain, cette personne a le devoir en Jésus-Christ de me pardonner. Mais de manière ultime, mon juge, celui qui fait que je suis entièrement libéré de la charge de mes fautes, seul Dieu peut le faire. Et la raison est très, très simple. Hein? La raison est très simple. C'est que tous nos péchés, toutes les offenses que vous avez faites, pensez à ce que vous avez fait de plus vil, de plus laid. Toutes nos offenses, ultimement, sont faites contre la personne de Dieu. Si vous êtes familier avec l'histoire de David, vous savez que David a fait des choses odieuse, jamais on aurait pu imaginer dans notre naïveté, parce qu'on ne connaît pas à quel point le péché est profond et ses ramifications. Jamais on aurait pu imaginer qu'un homme de Dieu semblable aurait posé des actes comme ceux-là. David est allé vers la femme d'un autre, puis ensuite, comme il désirait la voir pour lui, cet homme, son mari, était un de ses officiers. Il l'a placé au front pour s'assurer que cet homme meure au front. Il a donc éliminé son concurrent pour pouvoir s'approprier la femme d'un autre. Et lorsque Dieu a envoyé son prophète vers lui, parce que David était complètement égaré par son péché, aveuglé par sa faute. C'est incroyable même qu'un homme de Dieu puisse faire des choses semblables. Et honnêtement, si vous ne vous croyez pas capable de faire ça, c'est que vous ne connaissez pas votre cœur. Lorsque Dieu a envoyé son prophète, donc Nathan, auprès de David, et que David a été saisi par l'Esprit de Dieu, il a réalisé l'ampleur de sa faute, la monstruosité de son péché. Voici ce qu'il dit dans le psaume 51, au verset 4. Verset 4, il dit, et il s'adresse à Dieu, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » J'ai péché contre toi seul. » Bien sûr que David avait péché contre Bathsheba, cette femme vers qui il était allé. Était une pierre d'achoppement pour elle. Bien sûr que David avait péché contre Uri. David avait péché contre Israël en étant un roi exécrable, un pauvre leader spirituel. Mais en définitive, c'est contre Dieu qu'il a péché. C'est contre la loi de Dieu qu'il a péché en prenant la femme d'un autre. David a péché contre son Créateur. Dieu l'avait créé pour qu'il porte son nom. Dieu lui avait donné une loi pour que David porte le nom de Dieu. Alors, en fin de compte, tous les péchés que nous faisons, toutes ces choses cachées ou connues, inconnues ou dévoilées, en définitive, c'est contre Dieu que nous les faisons. J'ai deux enfants, Bastien et Jade. Bastien a 8 ans, Jade a 10 ans. Bastien connaît les règles de la maison. Si Bastien s'en va vers sa sœur, c'est un petit colérique comme papa. Alors, Sébastien se fâche puis il donne un coup de poing à sa sœur. Au moins, c'est un gars, tu sais. C'est une fille en plus. Sébastien se fâche et frappe sa sœur. Il pêche contre Jade. T'es d'accord avec moi? Mais il pêche contre moi aussi. Parce que Bastien est dans ma maison. Il connaît comment ça fonctionne. Il connaît quelles sont les règles de la maison. Il sait comment papa s'attend à être honoré dans cette maison en respectant les autres personnes autour de nous. Tous les péchés que nous faisons, toutes les fautes que nous faisons, en définitive, sont des offenses contre notre Créateur. Par conséquent, pardonner, effacer de manière absolue et complète les péchés, c'est une prérogative divine. Seul Dieu a le pouvoir de faire ça. Seul Dieu a le droit de faire ça. De prendre ton dossier criminel et de le laver entièrement. Et lorsque ces scribes, ces docteurs de la loi, ont entendu Jésus dire « Tes péchés te sont pardonnés », en eux-mêmes, la réaction qu'ils ont eue, c'est « Blasphème! Qu'est-ce que c'est ça? » Il n'a pas le droit de dire ça. C'est Dieu qui peut dire cela. Il y a juste Dieu qui a le droit d'effacer les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors Jésus, dans sa grande bonté, on ne sait pas comment il a connu leur cœur. Est-ce qu'il l'a vu sur leur visage? Est-ce que surnaturellement, il a connu leur cœur? Dans ce texte-ci, ce n'est pas quelque chose de clair. On ne sait pas. Mais il l'a su. J'imagine des fois, ça devait être assez facile de lire sur leur visage lorsqu'ils étaient dans leur coin en train de l'examiner. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais Jésus a su qu'ils étaient offensés. Qu'en eux-mêmes, ils trouvaient que c'était un blasphème qu'ils venaient de dire. Alors Jésus, dans sa grande bonté, va venir parler un langage qu'ils peuvent comprendre. Regardez bien ce qu'il dit. Regardez avec moi dans Matthieu 9, verset 4. Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. En passant, ceux qui ne comprennent pas « Fils de l'homme », allez voir Daniel 7, 13. Prenez ça en note, Daniel 7, 13. Jésus aimait se servir de cette expression. Ça va vous éclairer. Mais Jésus est devant eux et puis leur dit, « C'est très bien. Vous doutez que Dieu m'a accordé ce pouvoir, que mon Père céleste m'a confié cette autorité de pardonner les péchés, d'entrer dans la vie d'un individu et d'effacer ses fautes les plus secrètes. Je vais vous en faire la démonstration par un miracle, quelque chose qui est accessible à vos yeux. » Et sur le champ, il guérit ce paralytique. Comme attestation, comme signe que Dieu lui a donné cette autorité. Si Jésus avait vraiment blasphémé, Dieu n'avait qu'à ne pas exaucer, à ne pas accorder ce miracle. C'est tout ce que Dieu avait à faire. Imaginez la scène. Jésus prend autorité, le gars reste couché. faux prophètes, c'est clair. Mais Jésus-Christ a cette autorité. Il a ce pouvoir. Et regardez bien la réaction de la foule. La foule a eu la seule réaction sensée à avoir dans des circonstances comme celle-là. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Quand la foule a vu que Dieu attestait, Dieu confirmait que Jésus-Christ avait cette autorité, la foule a saisi que Jésus n'était pas qu'un autre faiseur de miracles. Jésus a dit qu'il avait autorité pour pardonner les péchés. Dieu l'a attesté par ce miracle. La foule a été saisie de crainte. Celui qui a autorité pour pardonner les péchés est celui qui reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Ce même Jésus-Christ qui ce jour-là et encore aujourd'hui nous offre le pardon de nos péchés, si Dieu lui a confié ce pouvoir, cette autorité de pardonner les péchés, il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. À certains, il dira « Viens et entre dans ma présence. » À d'autres, il dira « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. » Devant une telle manifestation de la puissance de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu crains et tu rends gloire à Dieu. Tu crains et tu rends gloire à Dieu. Matthieu nous dit, dans le début de son évangile, qu'un ange est venu dire à Joseph qu'un fils allait naître de Marie, que ce fils allait venir pour sauver son peuple de leurs péchés, qu'on allait l'appeler Emmanuel, Dieu parmi nous. Lorsque Jésus a guéri ce paralytique, après avoir dit que ce miracle allait être une attestation, qu'il avait autorité pour pardonner les péchés, la foule a saisi. Dieu est au milieu de nous. Il y a ici, en cet homme, l'autorité de pardonner nos péchés. Jésus-Christ est venu en ce monde pour sauver des pécheurs, pour prendre des gens qui ne cherchent pas Dieu, des gens qui ont toutes sortes de requêtes à adresser parfois même à Dieu. « Oh Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, sors-moi de cette situation. Quand j'étais loin de Dieu et que je me faisais pincer à faire des mauvais coups, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? On m'avait appris que Dieu était bon. Je criais, « Jésus, sors-moi de là. Viens pas me sauver. Rentre-moi pas dans cette gang-là. Fais juste me sortir de cette situation-là, s'il te plaît, Seigneur. » Les Québécois ont dit, dans un sondage, il y a 2 semaines, qu'ils croyaient dans l'existence de Dieu. Moi, je vous dis que la majorité des Québécois au Québec prient à chaque année Dieu. Croyez-vous ça? Ils crient à Dieu, dans des circonstances. Toutes sortes de requêtes. Grand nombre d'entre elles sont des requêtes tout à fait légitimes. Mais Jésus-Christ veut faire beaucoup plus que répondre à toutes ces requêtes légitimes, mais en même temps superficielles. Parce que Jésus est venu pour sauver des pécheurs qui ne cherchent pas vraiment Dieu. Des pécheurs qui veulent se servir de Dieu pour avoir une vie plus agréable, plus de confort, plus d'abondance, plus de joie dans cette vie. Oh, Dieu peut faire tout ça. Mais il veut faire beaucoup plus que ça. Jésus peut exaucer toutes ses requêtes. Mais il veut beaucoup mieux que cela pour nous. Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs. Jésus-Christ s'est engagé à nous transformer radicalement. Toutes les prières qu'on lui adresse, toutes les requêtes que nous lui adressons, Jésus-Christ les prend et les filtre à travers son agenda à lui pour notre transformation. si ce matin tu es venu ici et tu viens semaine après semaine, par respect, par curiosité, simplement pour pas te faire achaler, tu te lèves-tu ce matin? Oui, je me lève ce matin, je m'en viens. Jésus-Christ veut entrer dans ta vie, entrer dans les secrets de ta vie et venir effacer toutes tes fautes. Il faut l'avoir expérimenté pour comprendre de quoi je parle. Il faut avoir expérimenté cette grâce d'être touché par la main de Dieu dans les recoins les plus secrets de nos vies. Ces choses qui sont impardonnables, ces choses que nous ne saurions pas nous-mêmes nous pardonner. Être touché dans ces moments où nous ne croyons plus que c'est possible de faire quelque chose avec Yannick Étier. Être touché dans ces moments où les gens autour de nous ne croient plus que c'est possible de faire quelque chose avec Yannick Étier. Et que Jésus-Christ vient dans ces moments et qu'il te dit, « Tes péchés sont pardonnés, Yannick. Toutes tes fautes sont effacées, Yannick. Toi, tu n'es pas prêt à te les pardonner, mais moi, je suis prêt à te les pardonner, Yannick. Et à mes yeux, tu es un enfant chéri, un enfant précieux. Je te prépare une place au ciel. Je place en toi mon Esprit Saint. Tu vas porter mon nom. Toi qui te déclarais, qui te reconnaissais impur, je fais de toi mon messager. Un messager de grâce et de miséricorde. Toi qui te voyais indigne et sale, je te regarde. Et pour moi, tu es pur comme la neige. Tu es blanc comme mon fils chéri. Et je veux me servir de toi. Continue à prier. Continue à intercéder pour les gens autour de vous qui ne viendront pas d'eux-mêmes parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Jésus voit votre prière et votre foi pour eux. Et entendez l'appel de Christ. Et toutes les requêtes que vous lui adressez, saisissez que l'agenda de Jésus-Christ, c'est de faire de nous un peuple nouveau, radicalement transformé à la gloire de son Père. Et il a toute autorité et tout pouvoir pour le faire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ton esprit m'a parlé par ta parole, Seigneur. Ton esprit est venu en moi, a éveillé en moi la foi. Ton esprit m'a convaincu que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il a le pouvoir et toute autorité pour effacer les fautes, pour donner une vie nouvelle, de nouveaux commencements, Seigneur. Oh mon Dieu, viens convaincre de péché, de justice et de jugement. Viens, Seigneur, nous donner plus que la santé, plus que le travail, Seigneur, plus que l'exaucement à toutes ces requêtes légitimes et superficielles, Seigneur, pour venir pardonner nos fautes, pardonner nos péchés, opérer des transformations radicales et profondes dans nos vies, Seigneur. Viens, fais de nous un peuple nouveau, oh Dieu. Seigneur, vois notre foi. Vois ma foi ce matin, Seigneur. Vois la foi de tous ceux et celles qui intercèdent jour après jour, semaine après semaine, Seigneur. Et viens et fais ton œuvre, Seigneur. Au-delà de toutes nos requêtes, viens faire ton œuvre, Seigneur. Sauve, pardonne et donne un peuple nouveau. Efface nos transgressions. Transforme-nous profondément. Radicalement, Seigneur, viens à la racine de tous nos maux, efface nos péchés et fais de nous un peuple nouveau. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, avec crainte devant ta puissance et ton autorité, Seigneur Jésus, nous nous approchons Nous glorifions ton Père de ce que tu es venu sur cette terre, de ce que tu as fait ces miracles, de ce que tu es mort et ressuscité, de ce que tu es comparable à aucun autre, Seigneur Jésus, de ce qu'un jour tu reviendras pour juger les vivants et les morts, Seigneur. Et humblement, nous nous inclinons et nous te rendons gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Je vous invite à vous lever. Nous en...